droits de l'homme. Vous êtes avancé vous-même dans votre travail sur le cas et vous avez eu tout un tas d'exposés, de discussions, de débats dans lesquels vous avez entendu des acteurs ou des gens qui analysent les acteurs expliquer au fond différents aspects de ce contentieux transnational. Maintenant, on arrive dans une phase du séminaire qui est sur le plan méthodologique plus spécifiquement caractéristique de la théorie du droit, où les théoriciens du droit se penchent sur le phénomène, mais il a d'abord fallu, c'est notre méthode, je crois qu'elle est la bonne, d'abord fallu que vous compreniez de quoi on parle, hein, qu'on voit ça par l'exemple, qu'on voit comment ça fonctionne, et maintenant, vous avez assez d'informations pour qu'on commence à réfléchir sur le sens de cela. Hein, parce que ça n'est pas tout d'avoir, de savoir qu'il y a 10, 20, 30, 50 affaires de contentieux transnational qui tournent de telle ou telle manière. Ce qui est intéressant aussi sur le plan de la théorie du droit, c'est de comprendre, est-ce que ce phénomène a un sens? Que veut-il nous dire? Hein, que nous dit-il de l'évolution du droit et dans le cadre de l'évolution du monde contemporain, spécialement de la mondialisation? Alors, pour traiter de ces questions-là, on va avoir, et c'est un hasard, oui, c'est probablement un hasard, deux magistrats. On aura Paul Martens la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler, et cette semaine, on a le grand plaisir d'accueillir Antoine Garapon, hein, je rappelle quand même qu'il est magistrat, même s'il n'exerce plus comme tel, et qu'il est aujourd'hui essentiellement un écrivain, un chercheur et un enseignant, mais il demeure pleinement un magistrat qui réfléchit quand même aussi en juge à cette affaire du contentieux transnational. Alors, je le remercie beaucoup d'être présent, mais je dois vous dire que la présence d'Antoine Garapon s'imposait dans ce séminaire parce qu'il est, on va dire, un des grands-pères, non, ce n'est pas sympa, mais un des parrains, non, je pense à des parrains de ce séminaire, puisque quand on a travaillé sur le contentieux transnational, Antoine Garapon a eu l'idée de réunir une fois par mois, essentiellement à Paris, des chercheurs de plusieurs pays, français, belges, italiens, des Pays-Bas, anglais, etc., pour discuter à chaque fois d'un cas global. C'était comme là-dessus qu'on était, je crois, parti. Et ça a provoqué beaucoup de discussions, de réflexions, et ça a eu des suites. Et une de ces suites, c'est ce séminaire qui était jugé suffisamment mieux, parce qu'on a fait ça quand même il y a plusieurs années. C'était il y a 3-4-5 ans, et donc le sujet avait suffisamment mûri pour le proposer de manière spéculative dans le cadre d'un cours de théorie du droit, et donc voilà, il était très important que Antoine soit présent, et on le remercie d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Alors, Antoine Garapon, vous irez voir après le séminaire si vous n'êtes pas déjà au courant. Il a écrit beaucoup de livres qui vous intéresseront. Si vous intéressez au droit comparé, sur juger en Amérique et en France, si vous intéressez au rituel judiciaire, hein, bien juger, un essai sur le rituel judiciaire, si vous intéressez sur des affaires d'actualité, il a écrit Les leçons d'Outreau, etc. etc. Je ne vais pas citer l'ensemble de son œuvre. Mais en particulier sur le thème du séminaire, vous avez dû recevoir et vous avez dû prendre connaissance d'un article, d'un texte qui a été communiqué, qui s'appelle « Les juges au carrefour du national, du global et de l'universel », qui a été communiqué sur l'université virtuelle. Et je voudrais vous renseigner deux ouvrages qui peuvent vous aider dans votre travail, dont vous voudrez prendre peut-être connaissance à l'occasion de ce séminaire, dans l'ordre chronologique, avec Julie Allard, qui est là, qui est chercheur qualifié au FNRS, qui est collègue de l'ULB, du Centre Perelman, les juges dans la mondialisation. Donc là, vous voyez le lien, je pense, avec le sujet du jour et avec le thème du séminaire. Et alors ici, un titre qui est peut-être qui vous évoquera moins directement, mais dont je vous dis qu'il peut intéresser très certainement plusieurs d'entre vous, qui s'appelle, donc c'est un livre qui s'appelle « Peut-on réparer l'histoire ? Colonisation, esclavage et Shoah ?» et qui parle en fait d'une catégorie d'affaires du contentieux qui relève notamment du contentieux transnational et qui consiste à ouvrir, voire rouvrir, des demandes de réparation, essentiellement civiles, par rapport à des crimes commis dans l'histoire, comme la Shoah, comme d'autres contentieux nés de la guerre, les problèmes des femmes de réconfort par rapport aux troupes japonaises, notamment aux Philippines, et également le contentieux de qui résulte de l'esclavage et de la colonisation. Donc vous imaginez des gens qui viennent, dans le cadre d'actions collectives, demander réparation, parfois après donc des siècles, des crimes qui ont été commis. Et donc je vous recommande ce livre en particulier si votre cas, ce qui est tout à fait possible, touche à un de ces contentieux. Il y a beaucoup question du contentieux en réparation. Du contentieux contre les banques suisses, du fait que les banques suisses avaient retenu l'argent déposé sur des comptes par des victimes de la Shoah et qui n'avait jamais été réclamé, qui a donné un énorme règlement à l'intervention d'ailleurs des pouvoirs politiques et un règlement d'ordre international. Je fais circuler ces deux ouvrages. Voilà, donc vous pouvez en prendre connaissance pendant tout le séminaire. Je vais bientôt céder la parole à Antoine Garapon pour un exposé auquel répondra ensuite Pierre Klein. Pierre Klein, qui est professeur dans notre faculté, qui est professeur de droit international public, qui a été, me disait-il jusqu'à l'année dernière, mais qui sera sans doute encore professeur de théorie du droit international. Et donc, il était pour nous particulièrement intéressant de le faire dialoguer avec Antoine Garapon, notamment par rapport à cette réflexion de théorie du droit sur comment penser, au fond, la mondialisation, alors sur le plan du global ou sur celui de l'universel. C'est le thème de la réflexion que nous propose maintenant Antoine Garapon. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Je me retrouve dans des lieux qui sont assez familiers parce que j'ai enseigné ici il y a quelques années dans la chaire Perelman aussi. Ça fait toujours plaisir de revenir à Bruxelles pour une réflexion sur la mondialisation qui est un peu d'ailleurs la suite de ce séminaire qu'on avait co-organisé sur des études de cas sur la mondialisation. Essayer de comprendre ce qui nous arrive, ce qui se passe, et de le faire à partir de... Je suis frappé de la grande confusion ou la grande imprécision qu'il y a dans le langage, dans les mots même, pour parler de la mondialisation. En insistant d'ailleurs sur le fait qu'il y a des problèmes de traduction de plus en plus entre le français et l'anglais. Globalisation, mondialisation, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. L'idée de monde, c'est pas une forme comme le globe. Et je voudrais le faire à partir de, en reprenant finalement la question de la texture du monde, on pourrait dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mondialisation, dans la mondialisation que nous connaissons? Il y a une texture nouvelle. Il y a un rapport à l'espace nouveau, ne serait-ce que par Internet, par les technologies, par les facilités de se déplacer. Et j'ai trouvé dans Carl Schmitt, dans un livre que je trouve, alors je ne sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue du droit international, mais que je trouve comme absolument fondamental pour comprendre le droit, qui est le Nomos de la Terre. Le Nomos de la Terre, et qu'il a repris d'ailleurs dans d'autres études sur terre et mer. C'est-à-dire que ce que nous propose Carl Schmitt, c'est une sorte d'anthropologie physique du droit. Et je dois dire que ça, ça n'avait jamais été abordé dans mes études ni de droit ni de sociologie du droit. C'est-à-dire que, dans le fond, le droit n'est pas le même. Le droit est lié à la terre. La terre est une sorte de condition pour que la justice puisse se réaliser sur mer. Le rapport au droit est nécessairement nécessairement différents. C'est-à-dire qu'il y a pour chez Schmitt dans le Nomos de la Terre, il y a cette réflexion sur l'Angleterre. Et dans le fond, alors, il y a les obsessions de Schmitt toujours, et notamment sur l'obsession anti-anglaise et anti-américaine, anti-libérale. Mais il y a des réflexions, semble-t-il, très profondes sur la puissance maritime qui a été l'Angleterre et qui a influé la manière de concevoir son propre rapport au territoire, qui était un territoire, finalement assez restreint par rapport aux autres puissances européennes, et se concevoir comme puissance maritime. Il y a cette fameuse phrase de Rilke en disant les Russes et les Français, ils ont la terre, les Anglais, ils ont la mer, et à nous autres Allemands, il ne nous reste que le rêve. Et le rêve dans ses côtés les plus sombres aussi qui ont secoué l'Allemagne au XXe siècle. Et dans le fond, Schmitt part de cette intuition que c'est à partir de l'espace très concret et de la répartition de l'espace qu'il faut aborder ce qui est pour lui le thème du Nomos de la Terre, c'est-à-dire en fait le système westphalien. En fait, le système européen où trois ou quatre puissances se partagent la terre en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Espagne, système qui repose sur un équilibre, et dit-il, et c'est ça aussi très intéressant, sur un rapport à ce qui est en dehors de ce territoire, c'est-à-dire les terres appropriables, c'est-à-dire bien sûr les colonies, ce qui va devenir les colonies, et puis les lignes d'amitié, la mer, l'exploitation de la mer, le contrôle de la mer. Il retrouve d'ailleurs une vieille tension qu'on retrouve depuis dès les guerres du Péloponnèse, où entre la puissance maritime d'Athènes et la puissance terrienne, aristocratique de Sparte. Et cette tension, finalement, on continue de la vivre en quelque sorte, et on pourrait revenir dans la discussion, il ne faut pas trop s'étendre dessus, mais on pourrait reprendre sur la conception anglaise, la conception de la common law du territoire n'est pas du tout la même que la conception continentale, et pour cause, parce qu'ils ne sont pas sur le continent, et ils n'ont pas la même conception de la frontière notamment, ils n'ont pas ce même rapport à l'espace, on pourrait dire de manière un peu pédante, où pour un empire, ce qui compte pour un empire, c'est le rapport centre-périphérie, alors que dans un État, c'est la frontière qui délimite précisément qui délimite le territoire. Il y a une forme maritime du pouvoir. Il y a une forme maritime du pouvoir et qui, curieusement, va se retrouver aux États-Unis, qui vont, en quelque sorte, habiter la terre comme une mer ferme. C'est-à-dire cet imaginaire de la conquête, de l'appropriation et de l'espace sauvage dans lequel on vit sur la terre comme on se comporte sur la mer. Et qui donne cette configuration, d'ailleurs, très particulière, sur laquelle revient Schmitt longuement, cette configuration très, très particulière, parce qu'en quelque sorte, il dit à un moment, elle est pré-étatique, ce rapport à la terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre question de la mondialisation ? Ce qu'on peut en tirer, c'est que pour comprendre la mondialisation, il faut partir de ce qu'elle n'est pas, de son contraire en quelque sorte, c'est-à-dire de l'État national. L'État national, nous dit Schmitt, la force du droit primitif consiste en un acte premier qui ordonne un lieu, enclôt un champ, délimite un espace propre, une propriété. Le droit est donc une certaine combinaison de l'ordnung et de l'ortung, d'un ordonnancement, d'une mise en ordre, et qui instaure en soi une règle. Détermination d'un lieu qui instaure en soi une règle. Et donc, on pourrait dire, ce qui se passe dans l'État rêvé par Schmitt, l'État, mais qui correspond très bien aux canons continentaux, c'est cette combinaison d'un territoire, d'un espace, territoire qui est une définition politique, d'une certaine relation entre les hommes et d'une certaine relation entre les biens. Alors, si vous voulez, je voudrais prendre les choses de très haut, finalement. Ce qu'il appelle le jus publicum europeum, c'est-à-dire l'ordre westphalien, c'était quoi ? Là d'où venons ? Là d'où nous venons ? C'était un ordre qui organisait en même temps le monde, ce qui était extérieur aux États, et ce qui était intérieur aux États. Le système westphalien, c'est ce qui permettait de distinguer des trois articulations fondamentales et trois articulations qui vont être troublées par la mondialisation très profondément, c'est-à-dire l'articulation entre le droit interne et le droit international, jusqu'ici tout va bien, mais aussi une articulation entre le droit et la politique, le pouvoir politique est la seule source du droit, et aussi, on l'aperçoit moins, un rapport entre le droit et la morale, dans le sens où le système westphalien met un terme aux guerres de religion et distingue le droit de la morale. Alors, donc, l'ordre westphalien, c'est une organisation, c'est une répartition, finalement, de la terre en États, et c'est un certain système interne-international. C'est trois types de relations. Sur lesquelles on avait consacré d'ailleurs une séance. C'est-à-dire, il y a la relation ami-ami, on est à l'intérieur du même territoire, et là, le droit privé s'applique. Et puis, la relation ami-ennemi, où le droit ne s'applique pas, mais une certaine réciprocité dans l'usage de la violence est quand même restreint la violence. Et puis, il y a la troisième relation, la relation au sauvage, au colonisé, à celui qui n'est ni un ami ni un ennemi, et qui est cette relation d'hostilité. Très bien. Et on constate que d'ailleurs, je vais très vite parce que tout cela est assez classique, que à ces trois types de relations correspondent trois types d'échanges économiques. La solidarité, la mutualisation des risques et l'échange et la solidarité, le don, si vous voulez, on pourrait dire, forme de don est réservée au rapport ami-ami, mais l'échange commercial est possible avec les ennemis, avec les autres, et en revanche, avec la troisième relation, les très étrangers, c'est des relations de troc ou de pillage. On prend sans contrepartie, on n'est pas lié par des relations commerciales. En d'autres termes, vous voyez que dans le système westphalien, s'articulait le droit au territoire, mais également les relations entre les hommes, la coexistence humaine et les types d'échanges économiques. Alors, pour Schmitt, il y a cette idée qui va développer, pas dans le Nomos de la Terre, mais qui développe dans Terre et Mer, sur cette idée de révolution spatiale. Qu'est-ce que c'est que la révolution spatiale ? La révolution spatiale, c'est lorsque, tout d'un coup, un nouvel espace apparaît ou un nouvel usage de l'espace apparaît. C'est-à-dire, la révolution spatiale, c'est par exemple l'utilisation des fonds marins par les sous-marins. C'est l'utilisation de l'espace aérien par les avions. Tout ça se produit au XXe siècle. Et la fin du nomos de la Terre, c'est de dire, eh bien, il y a... Les conditions sont complètement nouvelles parce qu'il y a une utilisation, et ça donne d'ailleurs lieu à beaucoup de métaphores chez Schmitt sur la métaphore du pirate, j'y reviendrai à l'instant, du partisan. Le partisan, c'est finalement le terroriste, on dirait aujourd'hui, c'est comme une sorte de sous-marin en terre ferme, celui qui est partout, qui a le dos d'ubiquité, qu'on ne peut localiser. Alors, la révolution spatiale, c'est la découverte de toutes les potentialités de la mer. C'est la guerre du Péloponnèse. Les Athéniens se rendent compte qu'en utilisant finalement intelligemment leur marine, ils vont devenir une puissance quasi ubiquitaire dans le monde grec et ils vont comme ça remporter beaucoup de batailles. C'est la découverte de l'utilisation des mers et des techniques de navigation, les grandes découvertes, etc., etc. Alors, on pourrait dire, ça sera mon deuxième point, si vous voulez, après cette approche par une sorte d'anthropologie physique du droit, Deuxième point, il y a une révolution spatiale et la mondialisation est une révolution spatiale. Elle contribue à changer profondément notre rapport au monde parce qu'il y a une nouvelle utilisation de l'espace qui offre des enjeux considérables. Alors, on pense immédiatement à, bien sûr, à la technique, la technologie, à l'Internet, on pense aux techniques financières, on pense à la finance, on pense moins, et pourtant c'est très très intéressant, à l'aérosatellitaire. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant, je fais que le mentionner, de la part des États-Unis, une maîtrise quasi totale et absolue de l'aérosatellitaire. Ils contrôlent l'espace qui est au-dessus de nous, passer une certaine distance, est entièrement contrôlé par un seul État. Enfin, prétendument, parce qu'en fait, il n'y arrive pas, ou pas autant qu'il le voudrait, mais c'est très intéressant, Schmitt n'avait pas prévu ça, mais c'est très intéressant du point de vue de la... l'État était le lieu où s'articulait finalement, l'État était le lieu où s'articulait à la fois les rapports entre les hommes, un certain type d'échange économique et une certaine coexistence avec le reste de la Terre. Et ces trois, c'est la révolution spatiale va désorganiser, désarticuler cet ordre. Il le désarticule, et ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de construire des catégories pour comprendre que cette désarticulation se fait... Il ne suffit pas de parler de mondialisation, il faut être plus précis, plus exigeant peut-être sur la, de façon analytique, de façon à comprendre cette évolution. Et je vous propose, et dans l'article que je vais proposer, c'était encore encore work in progress, c'était encore un peu hésitant, je vous propose une nouvelle distinction qui correspond au tableau que je vous ai fait distribuer. Dans le fond, on pourrait dire il y a trois émancipations qui sont, si on reprend ce que je vous disais de l'ordre westphalien, d'un côté, il y a on pourrait commencer par l'humanitaire. Je prends humanitaire au sens de l'adjectif de droit de l'homme, ce qui est une des exceptions, c'est pas forcément d'ailleurs la meilleure, mais humanitaire, ça veut dire cette relation ami-ennemi qui permettait le meurtre, qui permettait des traitements épouvantables, cette relation d'hostilité qui considérait qu'il y avait des hommes qui ne méritaient pas véritablement ce titre. Tout cela est bouleversé par l'idée de droit de l'homme, l'idée de droit humanitaire, par une conception abstraite et universelle des droits qui sont attachés à un homme en tant qu'il est homme. C'est le mouvement de la justice pénale internationale, c'est le mouvement de la fondamentalisation des droits, notamment en Europe, c'est le mouvement inauguré par Nuremberg en ce qui concerne la justice pénale internationale et qui va bouleverser profondément l'ordre westphalien parce que le souverain qui était le seul sujet de droit international et qui était source de justice en interne devient justiciable devant une cour pour des motifs pénaux, ce qui était impensable dans l'ordre westphalien traditionnel. Donc le monde dans l'idée humanitaire, pour cette idée des droits de l'homme, le monde, c'est l'humanité. C'est une certaine idée de l'homme, c'est une certaine conception de la dignité humaine, procédant d'événements qui en ont dévoilé l'horreur de son absence, et où le droit s'énonce de manière déclarative, déclaration de 48, la déclaration de 1789, qui est, mais avec cette vocation universelle, qui est toujours très importante, qui repose sur des principes généraux et communs qu'il faut honorer, que les systèmes doivent être honorés, qui se légitiment par la profondeur et la vertu de ses valeurs, si je peux l'exprimer ainsi, par l'idée de l'homme qu'elle contient et à laquelle elle renvoie. Donc ça, c'est un premier bouleversement, c'est le bouleversement qui est introduit finalement par le procès de Nuremberg. Il faut donner une date, et qui est le mouvement qui va 48, etc. Premier grand bouleversement. J'y reviendrai dans un instant, parce que on pourrait dire que il y a une sorte de déterritorialisation de l'espace qui tout d'un coup n'est plus l'idée de justice pénale internationale, qui est en fait une idée régulatrice, qui n'est pas, qu'il ne faut pas prendre comme une juridiction, elle déshomogénéise l'espace. L'espace n'est plus, l'État perd son privilège de juridiction, la souveraineté est sous surveillance du fait de la compétence conjointe donnée aux États, si on pense à la compétence universelle que vous connaissez, ou même à une juridiction supranationale. Et il y a un effet encore plus désarticulant, c'est que, en réalité, l'idée de la justice, cette idée d'un ordre humanitaire ou d'un système humanitaire, il accentue l'indépendance de la justice interne. Alors, c'est-à-dire qu'il il intervient, il se pose comme un autre de la souveraineté, en altérité à la souveraineté, et par le mécanisme de la complémentarité, et parfois de la supériorité d'ailleurs, il interfère puissamment dans la justice interne, à tel point qu'il se pose comme une dimension du droit interne en réalité. Alors, on pourrait y revenir, parce que je ne veux pas être trop long, mais il n'a pas de territoire. Cette idée de l'homme, elle n'a pas de territoire. Elle s'applique partout où se trouve un homme. Et sa grande difficulté, c'est que ces valeurs universelles, elles n'ont pas la force. Elles ne sont pas appuyées sur la force qui était ce que procurait l'État, qui était le lieu de conjugaison, de mariage entre le droit et la force publique. Ça, ce n'est plus possible pour cette première désarticulation de l'ordre humanitaire. Deuxième vague qui se produit avec la mondialisation, ce que j'appelle le mercatorial, le bon mot serait le marché, mais le marché, non pas le marché comme une réalité économique, mais le marché au sens où l'entend Hayek, comme un mode d'organisation humaine qui est extensible à toutes les activités et tous les secteurs de la vie. Et donc c'est pour ça que c'est cette idée de l'ordre spontané du marché. Le véritable nom que j'aurais dû employer, mais qui est très barbare, ça aurait été le mot de catalactique, catalaxie. C'est-à-dire, je vous renvoie au travail, à ce que dit Hayek, dans le fond, la libération des marchés, de l'économie, mais aussi de l'Internet et de la circulation des personnes, fait que nous vivons, la mondialisation entretient, caresse le rêve d'un ordre qui fonctionnerait tout seul, d'un ordre spontané, mais qui repose sur une séparation, c'est très important pour Hayek, une séparation entre la finalité et les moyens. C'est-à-dire que c'est un ordre qui ne se conçoit que comme une fourniture de moyens, et qui est très visible dans la mondialisation économique, entre parenthèses, c'est-à-dire, voilà, il faut s'organiser pour que les informations économiques, les informations comptables soient présentées de la même manière, donc on réunit les comptables, et les comptables sécrètent eux-mêmes des normes comptables qui prennent le, c'est plus compliqué que ça, mais qui vont s'imposer, y compris contre les normes nationales, françaises, y compris contre les normes européennes, y compris contre les normes américaines d'ailleurs. Et sécrétion directe des comptables, en fait c'est des profs anglais, mais c'était pas des praticiens. C'est cette distinction entre fondamentale pour Hayek, entre la nomos et la thésis, c'est-à-dire entre les finalités politiques, le droit public pour faire court, ça doit être congédié parce que c'est incompatible avec le monde, mais par contre la mondialisation va renforcer le droit contractuel. Nomos, c'est un peu une exagération, c'est-à-dire c'est ce droit qui est nécessaire pour que les choses circulent, pour assurer la fluidité de quoi ? Fluidité et la multiplication des transactions. Alors que dans le modèle humanitaire, il n'y a pas de consistance au monde. Le monde se résume à une idée de l'homme. Ce monde se résume à une valeur abstraite d'humanité. Dans le pour le second modèle, qu'on pourrait appeler le modèle du marché, mercatorial, bon, c'est un peu lourd, on se représente le monde comme une toile. C'est-à-dire, il y a des transactions, et vous savez, comme le stade des Jeux Olympiques de Pékin, il y a des lignes, entre lignes, il n'y a rien. Mais il y a des lignes, et c'est comme une toile très distendue, c'est un paquet de relations, et c'est un paquet de transactions, parce qu'il n'y a pas véritablement de relations entre les hommes, ce qui est important, c'est les transactions qu'ils font entre eux, et c'est comme ça que le néolibéralisme, et comme ça d'ailleurs que c'est une phrase célèbre de Thatcher qui est reprise par Reagan, et que pourrait très bien endosser le président Sarkozy, de dire, la société, je ne sais pas ce que c'est. Je connais les individus, oui. Des Français, oui. Est-ce qu'ils font une société? Ça, c'est pas sûr. Et entre eux, eh bien, le rôle de la politique, c'est d'assurer un maximum de loyauté et de possibilité de transaction entre eux. Et c'est comme ça qu'on va créer un espace politique. Donc il y a on pourrait dire de manière très, très, très horrible, très pédante, une désurfacialisation du monde. Il n'y a plus de surface, il y a des lignes. Ce qui est... c'est cette métaphore si contemporaine du pirate. Là, on trouve la métaphore maritime. La mondialisation se pense comme un monde liquide, se pense comme une immense mer dans laquelle il n'y a plus de territoire, il y a des gens qui circulent dessus, qui circulent sur le net. Et vous remarquerez d'ailleurs que la métaphore pirate est extrêmement, que ce soit des hackers ou de la piraterie aérienne, du terrorisme, elle est extrêmement parlante à notre monde. Pour ceux que ça intéresserait, je renverrai un petit article que j'avais fait sur l'imaginaire pirate de la mondialisation, mais qui est extrêmement révélateur de cette nouvelle conception du monde, de l'espace, de la texture du monde. Alors, il n'y a pas véritablement de monde d'ailleurs. Il y a ces relations, il y a des activités particulières. Et il y a l'union de la Poste internationale, il y a l'union des comptables, et puis après, il y a dont la perspective n'est plus la déclaration, mais la régulation, et une régulation qui doit être souple. La perspective de la régulation étant précisément de ne pas produire des normes, mais pas d'institutions. L'ordre spontané pour Hayek, c'est un ordre qui se justifie par sa propre efficacité, qui n'a pas de finalité extérieure. Et c'est un ordre dont la seule vertu est son effectivité. Ça marche. Ça marche. Les normes comptables, ça marche. Et on arrive à ce paradoxe que dans le monde, eh bien, il y a les institutions qui sont légitimes, mais qui ne sont pas efficaces, et donc qui ne marchent pas. Et puis les institutions qui ne sont pas légitimes, mais qui sont efficaces, et elles marchent. Et si on prend l'exemple des normes comptables, on pourrait en prendre des tas d'autres, eh bien on voit que les normes comptables, ce qui a été délibéré par les représentants du peuple français, ce qui a été concocté par les représentants des 27 à Bruxelles, ce qui a été décidé par le peuple américain, tout ça est mis de côté et on applique ce qui a été concocté par des comptables. Mais en fait, derrière, il y a bien sûr une vision de l'entreprise vue de... etc. etc. Donc, et on va retrouver ça d'ailleurs tout le temps chez Hayek, c'est très important, les relations doivent se prendre en charge, sorte de non-temps de l'échange. Il y a l'instantanéité de l'échange qui fait qu'on congédie tout ce qui est le long terme, tout ce qui est l'historique et tout ce qui est d'ailleurs le long terme devant. Un des grands reproches qu'on peut faire à Hayek, c'est le reproche que Jean-Pierre Dupuis fait à Hayek, c'est de dire c'est très gentil cet ordre spontané du marché, mais comment est-ce qu'il peut prendre en considération la préservation de la planète? Comment peut-il, dans les termes de cet ordre qui repose uniquement sur un marché, sur des acteurs, sur des transactions, comment est-ce qu'il va prendre quelque chose comme la préservation des ressources fossiles, l'économie des ressources fossiles. Donc le problème, c'est que cet ordre qui se concentre sur les biens, il dissocie à l'extrême l'échange des biens, des rapports entre les personnes. Ce que réalisait l'État, comme je le disais en introduction. Et donc finalement, la crise financière, on pourrait voir une métaphore d'une abstraction tellement abstraite et qu'elle s'est tellement éloignée des hommes que c'est un marché qui tourne tout seul et qui devient fou. En réalité, ce que montre l'exemple, quoi, ce qu'on peut constater de la mondialisation aujourd'hui, c'est une sorte de fragmentation du monde. La mondialisation économique fragmente, éloigne des mondes de plus en plus séparés, y compris d'ailleurs à l'intérieur de nos villes. Ce n'est pas uniquement une séparation géographique. C'est-à-dire que c'est une banalité de rappeler que la mondialisation, elle éloigne, elle fragmente, elle divise, et elle ne produit pas d'ordre. Ou l'ordre qu'elle produit, ce sont des ordres de subculture, encore une fois, des normes ISO, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce droit normatif, ce droit qui ne fait pas institution, ce droit, il n'a pas vocation non plus à faire système. Il peut faire système, mais ce n'est pas sa vocation première, et c'est plutôt un anti-système, c'est plutôt un droit qui va contrarier l'application du système juridique tel que pensé dans l'ordre national. Troisième dislocation du système, on pourrait dire, et j'en ai déjà parlé, c'est le registre que j'appelle planétaire en référence, bien sûr, vous l'aurez compris, à la Terre, à la planète, qui est aperçue non plus à partir de l'idée abstraite d'humanité, ni à partir de la transaction commerciale, mais à partir de sa réalité physique. Une réalité physique qui s'impose à nous, et qui s'impose à nous de facto. Il ne s'agit plus de justice, et dans cette fameuse phrase, très belle phrase d'ailleurs, de Virgile, hein, Virgile dit la terre justissima tellus. C'est une phrase superbe. La terre la plus juste, parce que par sa texture même, gardant la mémoire du travail des hommes, elle va restituer ce qu'est le sillon qu'on a fait en elle. Et c'est le propre de le monde de la terre. La mer permet le déplacement. La planète, elle ne connaît pas la justice, c'est une réalité purement physique qui introduit une solidarité de fait entre les hommes, solidarité organique, on pourrait dire, qui du fait de la mondialisation, du fait des préjudices qui sont portés par la mondialisation et puis par le travail millénaire et l'activité millénaire, qui fait que tout d'un coup, la mondialisation se voit naître à travers l'écologie, au sommet de Copenhague, et de voir tout ce mouvement, quelque chose qui ne s'apparente ni à l'humanitaire, ni au marché. Ni au marché parce que il n'y a pas de... il s'agit plus de... on n'est plus dans la... Si vous voyez, dans cet ensemble de lignes, on n'est plus dans le territoire, on n'est plus dans l'abstraction, on est dans une réalité physique. Et parce que il s'agit d'une réalité physique, elle n'est absolument pas tributaire de... le marché va être réintroduit secondairement par le marché des droits de polluer. Et on voit l'importance que prennent les experts, les scientifiques, et on voit aussi l'importance que prennent les objectifs. Je suis très frappé en travaillant sur Copenhague ou sur ce qui se passe actuellement, c'est que on parle pas de normes, on parle d'objectifs chiffrés. Copenhague, c'est du chiffre. Alors, c'est du chiffre au sens combien 25%, 17%, non, et puis 2050, on fera tant. Et c'est un monde de chiffres parce que, et ces chiffres-là, c'est un chiffre de la physique, c'est un chiffre, en témoigne d'ailleurs les polémiques actuelles sur le GIEC, etc. C'est-à-dire que dans ce troisième modèle planétaire, c'est la matière du droit, c'est la Terre, et de plus en plus d'ailleurs, Il y a des études où cette dimension planétaire ne se justifie pas par son efficacité, parce qu'on ne la mesure pas encore, mais plutôt par sa nécessité, son impératif, l'impératif inéluctable qu'elle impose à l'agenda des politiques et par son impact ou par les études d'impact. Alors on pourra revenir dans la discussion si vous voulez, je ne veux pas être trop long. Voilà, ce que je voulais dire et ce qui résume le petit tableau que je vous ai fait distribuer, c'est que là on ne raisonne plus en termes de mondialisation avec un M majuscule, mais on l'a décomposé en trois désintégrations. D'une part, les rapports entre les hommes, l'humanitaire, les rapports économiques, les liens, le marché, le rapport au monde, au territoire en ce qui est physique, le planétaire. Fort bien. En quoi est-ce que ça va nous servir, ce modèle, pour repenser ce qui se passe? Alors, en première approximation, ce sera un peu ma conclusion, parce que c'est là que j'ouvre la discussion, on se rend compte que ces trois désarticulations de ce que contenait l'État national, cette combinaison de Ortung et de Ordnung dont parlait Schmitt, ce qui était réalisé par l'échelon national, qui occupe la première ligne de mon tableau, eh bien, chacune est incomplète. Le premier échelon humanitaire a oublié la force. C'est une valeur, mais qui n'est adossée à aucune force. La CPI, combien de divisions? Ils ont 35 enquêteurs, 150 enquêteurs à tout casser. L'ordre du marché, il a oublié la politique en termes de finalité. Et le troisième échelon, celui de la planète, eh bien, il néglige la condition dispersée des hommes, on pourrait dire. C'est-à-dire que les hommes sont divisés entre des intérêts antagonistes. Et il y aurait une lecture de philosophie politique de faire de Copenhague, très intéressante, sur précisément ce qu'on découvre à Copenhague, c'est deux choses en même temps. C'est en même temps qu'il y a une nécessité commune de protéger la planète, il y a un évident antagonisme des intérêts du Nord et du Sud, mais des BRIC et des pays et de l'Europe et des BRIC Brésil, Russie, Inde, Chine, et en fait on retrouve la politique comme un conflit d'intérêts, comme une division des intérêts, très loin de l'idée d'harmonie universelle de l'âme. Alors la première distinction, c'est celle qui est proposée par Frédéric Gros en France. Il dit, lui, il raisonne en trois termes. Il dit finalement, il y a trois paradigmes pour penser le monde. C'est le total, l'universel ou le global. Le total, c'est cette prétention totalisante du politique dont le XXe siècle était l'expérience douloureuse. L'universel, c'est la prétention universelle de la démocratie, et le global sera en quelque sorte un âge post-démocratique dans lequel l'idée de saturation de l'espace qui était liée au total, l'idée d'orientation liée à l'universel, là on aurait la fragmentation post-démocratique. Alors, quelques mots pour conclure. Je pense que, si vous voulez, ce que j'ai voulu ce soir, c'est montrer dans quels termes je pense qu'il faut se poser la question de la mondialisation. Alors, ensuite, ce qu'on remarque, c'est que ces trois registres se présentent profondément imbriqués les uns dans les autres. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont imbriqués qu'il ne faut pas les distinguer. Au contraire. C'est-à-dire que dans de plus en plus, c'est ce qu'incarne la RSE ou de plus en plus en matière d'environnement. C'est moins clair en matière d'environnement d'ailleurs, c'est moins clair qu'en matière de droits de l'homme, où il y a des combinaisons entre ces différents registres. J'ai un ami qui est avocat, qui est en charge un contentieux qui concerne le Crédit Lyonnais à New York, pour un prêt consenti par le Crédit Lyonnais à une banque jordanienne considérée, listée par Israël et uniquement par Israël comme étant une banque qui subventionne le Hamas. Et les associations, l'État d'Israël, je crois d'ailleurs, poursuit des avoirs français à New York en disant vos avoirs contreviennent au listing d'Israël et aux lois antiterroristes et aux conventions antiterroristes qui ont un statut très très incertain en droit international d'ailleurs, parce que s'il s'agit de sauver. Et voilà, donc c'est à la fois du business, à la fois de la politique, à la fois de des droits de l'homme et de des questions de... Donc il y a une imbrication de ces différentes logiques qui nous repose des questions qui ne sont pas tranchées, mais qui sont de ces termes-là qu'il faut, à mon avis, les penser. Un constat des tensions, si vous voulez. Les tensions, c'est savoir ce qui n'est pas décidé aujourd'hui, c'est finalement le droit qui prétend organiser la mondialisation, le droit des droits de l'homme ou le droit tout court, il est en tension d'une part avec la puissance de la logique du marché, c'est-à-dire qu'il y a un marché global des services juridiques, il y a une mise en concurrence des systèmes juridiques à tel point que le droit est autant objet que acteur de l'ordre spontané du marché, et que bon, enfin, c'est tous les grands thèmes qui sont développés par Horacia Mirvat. De la même manière que pour la justice pénale internationale ou tout droit humanitaire, il est autant instrumentalisé par les gouvernements et par la géopolitique qu'il n'est véritablement directeur des relations internationales. Donc je crois que ce à quoi on assiste, c'est plus un programme ou un vœu d'ailleurs qu'un constat, c'est, on se rend compte que reconstruire, faire monde, on pourrait dire de manière un peu pédante, faire monde, eh bien ça veut dire qu'il faut retrouver les moyens de combiner la force et le droit. C'est vrai pour le droit humanitaire et c'était ce que réalisait l'État. C'est une nécessité, et c'est là où, à mon avis, l'échec de la pensée de Hayek, de réconcilier, quoi, pas de réconcilier, de réintroduire des finalités dans le marché qui se propose comme véritable modèle politique. C'est retrouver un lien entre l'échange des choses, la circulation des biens, et le statut des hommes, qui étaient ces niveaux désarticulés par la mondialisation, finalement nous contraignent à inventer une nouvelle manière de les réarticuler, et c'est tous les enjeux, et à partir de là, on pourra reprendre un certain nombre de contentieux, on pourra en parler dans la discussion, de contentieux très précis, de voir comment est-ce que, et c'est ce que j'avais fait dans l'article sur la pro des juges, mais les juges ne sont pas les seuls acteurs, hein, il y a des régulateurs, il y a des rapports politiques. Comment, à partir d'un type de contentieux comme Copenhague ou comme on peut reprendre la question de la mondialisation juridique munie de cette tripartition. Merci.
Bien, merci Antoine pour ces différentes visions partielle de la mondialisation. La question qu'on aura envie de te poser, mais comme tu le cites en conclusion, tu l'abordes dans ton article, mais on devra forcément la reprendre dans la discussion, c'est comment où tu mets le contentieux transnational dans des droits de l'homme dans la grille de lecture, ou comment que devient le contentieux transnational quand on le passe à travers cette grille de lecture. Mais avant de te poser cette question-là, le regard de l'internationaliste et du théoricien du droit international sur cette grille et sur le sujet du jour. Donc Pierre, je te passe la parole.
Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup au Centre de philosophie du droit, plus globalement pour cette invitation et pour cet honneur assez redoutable qui m'est donné de proposer quelques commentaires sur la présentation qui vient de vous être faite. Je le ferai en partie sur base de ce que vous venez d'entendre, en partie sur base de ce qui m'avait été donné à lire auparavant et qui est un petit peu différent pour certains des éléments, en tout cas, de ce que vous avez entendu aujourd'hui, même si on retrouve globalement un certain nombre des catégories et de ces étapes de désintégration que vient d'évoquer Antoine Garapon. Mon point de départ et pas mal d'aspects en fait de ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est un petit peu l'identification de ces étapes et de ces modèles. Je trouve toujours ça très difficile parce que évidemment, et Antoine Garapon le précise évidemment très justement dans son texte écrit, ce sont des idéotypes. Et donc évidemment, ce sont des images qu'on va donner de façon un petit peu carrée, caricaturale, pour essayer de faire passer un message et pour dire, bon, ben, globalement, c'est ce qu'on peut identifier comme mouvement à tel moment et qui possède telle caractéristique globale. C'est ça l'idée de l'idéal type, c'est qu'évidemment, on ne fait pas dans la nuance et qu'on va toujours trouver, évidemment, si l'on regarde les choses de plus près, 36 raisons de contester le modèle en disant, oui, mais dans le fond, si on prend sous tel ou tel angle particulier, on va voir qu'il y a telle ou telle chose qui échappe à ce modèle type. Et donc, c'est évidemment relativement difficile d'engager une discussion par rapport à cela et à l'identification d'étapes de ce type-là, sans rentrer dans une discussion très détaillée de ces points-là, puisque, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est compatible avec la notion même d'idéal type, qui est plus globalisante, qui est plus schématique d'une certaine manière, parce que il n'y a pas moyen de fonctionner autrement par rapport à l'idée d'un modèle et d'un modèle idéal. Alors, ceci dit, je voudrais quand même le faire en espérant pas tomber dans ce travers-là, justement, mais en revenant sur certains points de base et finalement sur un point de départ qui est commun à toutes ces évolutions, c'est l'affirmation générale et qui, je pense, est aussi le soutènement un petit peu de l'idée du contentieux transnational, entre autres dans le domaine des droits de l'homme, c'est l'affirmation du dépassement complet et radical, en quelque sorte, du modèle westphalien classique et de l'emprise territoriale de l'État. En cela, je pense que, en tout cas, moi, je m'autorise à engager une discussion ou un élément de contestation, parce que là, je pense qu'on n'est pas dans le détail, mais qu'on est sur un point qui est quand même relativement fondamental. Et donc, autant j'aurais tendance à suivre un certain nombre des évolutions qui nous ont été décrites et présentées en disant, dans tel registre, dans tel aspect, effectivement, je suis tout à fait... en accord avec l'idée selon laquelle on dépasse ce paradigme westphalien classique et on se trouve face à une situation qui est globalement déterritorialisée, autant dans toute une série d'autres aspects, je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Donc globalement, les affirmations générales selon lesquelles on a tourné une page et on est passé à un autre modèle et à un autre paradigme, personnellement, me laissent toujours un petit peu hésitant et mal à l'aise, globalement. Parce que je pense que les choses ne sont pas aussi radicales ou aussi carrées que cela, et que les modèles anciens, ben, ils continuent à nous coller au basque d'une certaine manière, ils continuent à demeurer prégnants, à demeurer pesants, et qu'on ne s'en défait pas de façon si évidente et si simple, et on ne décrète pas le passage d'un modèle à un autre de façon radicale. Alors, malgré tout, je crois qu'il faut être conscient qu'on parle d'évolution dans des temps qui sont relativement courts ou extrêmement courts. Et je pense que quand on regarde l'évolution du modèle de constitution de l'État en lui-même d'abord, de la société internationale ensuite, de l'élaboration de ses relations, on est dans des temps qui sont longs, en tout cas à l'échelle de l'histoire humaine, qui sont bien entendu... ridicule à l'échelle de l'histoire de la planète de façon plus générale, mais je crois qu'on a quand même là une certaine, je dirais un certain décalage entre ces temps-là. Et donc, la crainte est éventuellement de se laisser trop prendre dans une certaine mesure par le présent et peut-être d'en tirer des conclusions qui sont peut-être trop radicales par rapport à un état de choses qui est peut-être plus nuancé, que peut-être effectivement, c'est un modèle vers lequel on évolue, et je dis très vraisemblablement, en même temps, en le disant, le doute se forme immédiatement, puisque ce que vous montrez à la fois dans les étapes que vous identifiez et dans ce que vous écrivez sur le rôle du juge, c'est en même temps un certain mouvement qui progresse à certains égards, qui, j'allais dire régresse, mais ce n'est pas le bon terme, qui revient en arrière à d'autres égards. Et donc, je crois que rien n'est inéluctable, rien n'est écrit de façon très claire quant à l'évolution de ces relations et de ce rôle des acteurs de façon générale. Si je peux être un petit peu plus précis pour illustrer cela, je m'attarderai peut-être dans un premier temps à l'idée de la déterritorialisation, justement, qui est quand même un élément de base ici. L'idée selon laquelle, effectivement, cette emprise territoriale de l'État ne veut plus dire grand-chose, entre autres parce que, en particulier, les opérateurs privés ont pris un rôle de premier plan et que, effectivement, c'est quelque chose qui échappe dans une mesure assez significative au contrôle de l'État, ce qu'on retrouve dans l'idée ou le modèle mercatorial, mais aussi dans une certaine mesure dans le modèle humanitaire, puisque, au nom de valeurs universelles et partagées, finalement, il y a un dépassement, effectivement, de la conception classique de la souveraineté de l'État et de l'exclusivité de ses compétences territoriales. Alors, ça me paraît de nouveau certainement vrai dans une mesure non négligeable à certains égards, mais sans doute à relativiser à d'autres égards. Ça me fait penser à il y a un certain nombre d'années à la défense de thèse de Laurence Wertz, qui travaillait, qui est une chercheuse qui a travaillé avec le Centre de droit international, avec le Centre de philosophie du droit, avec l'Institut d'études européennes, sur des questions liées au territoire et à l'évolution de la notion même de territoire dans le cadre de la construction européenne, en disant finalement, que veut encore dire la notion de territoire pour les États européens, puisqu'on a finalement une superposition de compétences qui correspondent à des perceptions ou à des emprises territoriales qui sont différentes. On a un espace Schengen, on a un espace monétaire, on a un espace, je dirais, communautaire classique dans le sens de l'ancien premier pilier du droit communautaire européen. Ces espaces-là ne coïncident pas forcément. Certains États sont couverts par ces différents territoires et ces différents espaces, d'autres ne le sont qu'en partie, d'autres ne le sont pas du tout. Donc on a une fluctuation assez importante et finalement, cette notion de territoire ne signifie plus grand-chose. Ça se dématérialise dans une mesure non négligeable. Et en même temps, ce phénomène-là, il est bien présent, de nouveau, il est indéniable. En même temps, l'image qui, moi, me venait à l'esprit en l'écoutant et qui a fait l'objet d'un colloque à la Sorbonne assez peu de temps après, c'est l'image de la construction des murs. On a vu, on a cru là aussi que c'était une page tout à fait tournée de l'histoire. Il y avait un mur, c'était celui de la honte, c'était celui de Berlin qui est tombé en 1989 et on a cru que les murs, ça n'avait plus de sens. De nouveau, pour des raisons qui sont liées à notre perception de l'emprise sur le territoire, à l'inanité d'une tentative de séparation matérielle entre deux segments de territoire, etc., etc. Et dans le même temps, on a vu réapparaître un mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens, on a vu réapparaître un mur de séparation entre la frontière sud des États-Unis et le territoire du Mexique, on en a vu encore dans d'autres circonstances, au point, je vous l'ai dit, où ça était suffisamment intéressant pour justifier l'organisation d'un colloque sous l'angle du droit et des relations internationales sur ce phénomène de la multiplication des murs. Je crois que ça nous dit quelque chose malgré tout, cette ambivalence, et là elle est très symbolique, c'est très matériel, la construction de ce mur, et en même temps ça nous paraît complètement dérisoire à un certain nombre d'égards, parce que tout le monde sait qu'en tout cas la tentative d'ériger un mur sur la frontière sud des États-Unis, c'est pas ça qui va régler le problème de l'immigration clandestine aux États-Unis de façon assez évidente. si on continue à repenser à cette idée de la déterritorialisation par rapport aux éléments qui viennent d'être évoqués, par rapport, par exemple, à l'idée du progrès de l'idée humanitaire dans le sens qui a été évoqué par Antoine Garapon, je dirais que là aussi, il y a un certain nombre d'égards. C'est vrai en partie, en même temps, il y a des raisons d'être plus réservé sur d'autres points. Malgré tout, et c'est sans doute lié aux limites de ce modèle qu'Antoine Garapon lui-même a évoqué, l'humanitaire, c'est l'idéal sans les moyens de le mettre en œuvre, a-t-il évoqué en disant ben, finalement, c'est vrai que là, il n'y a rien qui le soutient, il n'y a pas de pouvoir exécutif qui accompagne cette idée ou ce progrès des valeurs communes ou des valeurs universelles, en particulier pour celles qui seraient communes à tous les individus sur la planète. Et finalement, si on veut rendre ce progrès effectif, c'est de nouveau, et c'est jusqu'à présent essentiellement par le biais des États que ça se fait, et la compétence universelle, le principe de la compétence universelle sur lequel vous êtes déjà penché ou vous allez vous pencher à nouveau, en est une bonne illustration. La compétence universelle, elle est exercée par l'État national. Elle est exercée sans doute au nom de valeurs communes, au nom éventuellement d'une société internationale qui partage ces valeurs communes, mais elle l'est par le biais de l'État national sur son propre territoire, avec ses propres moyens. Et avec finalement, ce que moi je trouve très frappant ces dernières années, une tendance à ce que j'appellerais la désuniversalisation, si on aime bien les dés privatifs, de la compétence universelle. Qu'est-ce qu'on constate sur le plan des législations nationales dans un certain nombre de pays européens qui ont été les plus en pointe, en tout cas dans les textes, pour l'application du principe de la compétence universelle? C'est essentiellement un retour en arrière, c'est l'érection de barrières supplémentaires pour limiter l'utilisation pratique de la compétence universelle. On l'a vu en Belgique avec la modification de la loi en 2003, on l'a vu en Allemagne en 2002 ou en 2003, on vient de le voir en Espagne, un pays où la compétence universelle était mobilisée de façon très active par des groupes divers et par les juges eux-mêmes, dont certains d'entre eux ont même acquis une popularité quasiment planétaire vu leur implication dans des causes de ce type-là. Ce à quoi on insiste, c'est effectivement un retour en arrière et, en quelque sorte, je serais tenté de dire, dans une certaine mesure, la mise à l'écart de l'humanité. On la rejette un petit peu à l'extérieur en disant, mais finalement, tout ça, c'était intéressant, c'était une tentative qui, effectivement, apparaissait prometteuse, mais qui soulève beaucoup plus de problèmes que ce qu'on pouvait penser. Et donc, on restreint les possibilités de déploiement de ce facteur humanitaire qui a été évoqué plus tôt. Et donc, je crois que ça renforce encore plus ce que j'essaye d'évoquer, à la fois la nécessité de la médiation de l'État pour la mise en œuvre de ce principe, parce que c'est lui seul qui, jusqu'à nouvel ordre, en dispose des moyens, à l'exception effectivement de juridictions internationales, mais qu'est-ce qu'elles ont fait sur ce plan-là? Ils ont un bilan, disons, en demi-teinte à l'heure actuelle, et pour la CPI, ça le restera sans doute pour pas mal d'années à venir. Et donc, non seulement la nécessité de la médiation de l'État, mais une sorte de régression, là je crois que le terme est sans doute plus correct, de la part des États eux-mêmes qui, finalement, se replient sur une coquille nationale plus classique en quelque sorte, et qui semble redonner un petit peu de vigueur à ce modèle westphalien ancien dans peut-être ce qu'il pouvait avoir de plus négatif à un certain nombre d'égards, une conception peut-être exacerbée de la souveraineté, y compris dans la personne même du souverain, à l'abri de toutes conséquences possibles de ses actes les plus abjects puissent-ils être. Alors, pour ce qui concerne la dimension mercatoriale, moi je l'avais abordée dans une perspective un petit peu différente sur base de votre texte au début, avant de comprendre que ce que vous entendiez, vous l'évoquiez plutôt sous la terminologie globale dans le texte, vous faisiez correspondre humanitaire à universel, ce qui en soi peut aussi d'ailleurs soulever un certain nombre de questions et à mon sens de remise en cause, parce que je crois qu'on a vite tendance à proclamer universel des choses qui ne le sont pas forcément, tant qu'à faire, je vais en dire deux mots de plus d'ailleurs. Les valeurs universelles en question, est-ce qu'elles le sont tant que ça? Est-ce que la compétence universelle qui est censée assurer le respect de ces valeurs-là, est-ce qu'elle est tellement assumée que cela? Combien d'États la pratiquent? Et est-ce que ça reflète leur sentiment d'être en effet si lié aux autres composantes de la société internationale par la défense et la protection de ces valeurs qui sont censées être universelles? Et à l'intérieur même de groupes d'États qui apparaissent assez cohésifs sur ce plan-là, on voit quand même des manifestations, là aussi, qui vont dans des sens divers et des appréciations ou des attachements assez divers à ces valeurs qui sont censées être universelles. Et pour en rester encore un instant à la compétence universelle en question, finalement, on se rend compte que même dans les États occidentaux qui en ont été, dans une certaine mesure, le fer de lance sur le plan théorique et sur le plan pratique, on constate quand même une mise à mal assez considérable du principe même de la compétence universelle, qui est attaquée, si je peux schématiser, sur sa gauche par ceux qui vont dire que la compétence universelle, finalement, ce n'est qu'une manifestation supplémentaire d'un impérialisme plus ou moins résurgent et qu'elle est utilisée et dirigée de façon assez systématique vers les dirigeants ou les responsables politiques d'un certain nombre d'États qui n'ont pas l'heure d'être dans les bonnes grâces des États qui font partie de ce premier cercle qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, des amis-amis, des États qui sont les plus civilisés. Donc ce n'est qu'à l'égard, pour parler tout à fait concrètement et pour évoquer les réactions que ça a soulevées d'un certain nombre de dirigeants de pays africains, qu'on va exercer la compétence universelle ou éventuellement asiatique, mais en tout cas lointain. Et puis la compétence universelle, elle est attaquée, si je peux schématiser aussi, sur sa droite, par des tenants de certaines idées de réal politique qui vont dire que malgré tout, ce qui est prédominant, certes les valeurs c'est important et c'est pas négligeable, et là aussi sur le plan très concret, quand vous évoquiez dans votre texte le fait que les juristes et les diplomates poursuivent le même objectif de protection des droits de l'homme, personnellement, ce n'est pas tout à fait ma perception. Certains diplomates, sans doute. D'autres, je pense que c'est assez loin de leurs préoccupations. Je referme cette petite parenthèse-là en passant. Mais attaqués par ces tenants d'une certaine réelle politique, ils se disent que l'universalité de la défense de certaines valeurs, c'est très bien, mais le maintien de relations politiques solides et privilégiées avec des alliés stratégiques essentiels, pour ne pas les nommer comme Israël ou comme les États-Unis, c'est encore beaucoup plus important et ça justifie là aussi une mise à l'écart de la défense de ces valeurs dites universelles. Donc voilà ce que je ne voulais pas dire de façon plus détaillée que je viens de dire malgré tout. Alors pour ne pas faire les choses trop longues, je reviens au global et à la mauvaise compréhension que j'en ai eue, parce que j'avais un peu le sentiment que l'opposition qui était faite par Antoine Garapon, c'était entre humanitaire, universel, c'est-à-dire la défense d'un certain nombre de valeurs communes, et puis le global, qui était la promotion simplement d'intérêts partagés, et donc où les valeurs finalement étaient relativement absentes. Et le paradigme auquel il était fait référence dans ce cadre-là, c'était plutôt le paradigme des relations commerciales globalement. Et moi, internationaliste publiciste obligeant, j'ai pensé en termes OMC plutôt qu'en termes régulation privée. Et j'ai compris par la suite que vous envisagiez plutôt la régulation privée. Vous avez mentionné dans votre texte Internet, dans votre présentation tout à l'heure, les normes comptables, les normes ISO, etc. etc. Donc effectivement, on parle d'un petit peu d'autre chose à cet égard-là. Mais malgré tout, ce qui me paraissait peut-être là aussi à nuancer, c'est que si on envisage en tout cas l'élément global et dans une certaine mesure l'élément mercatorial, parce que malgré tout l'OMC s'intéresse aussi au bon fonctionnement du marché sur le plan international, un fonctionnement aussi équilibré que possible, malgré tout les valeurs n'en sont pas absentes. Et donc, ça m'a fait penser, simplement, je suis revenu au préambule de l'OMC sur ce plan-là, qui me paraissait quand même intéressant de reciter. Comme vous le constatez, je viens d'être atteint par les limites d'âge. Mon ophtalmo m'a dit que j'étais mûr pour les doubles foyers. Reconnaissant les parties au présent accord, reconnaissant que leur rapport dans le domaine commercial et économique devait être orienté vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi, un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, l'accroissement de la production du commerce de marchandises et services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, à la fois en vue de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique, reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assure une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique. On peut continuer encore, mais il y a des valeurs là, à mon sens en tout cas. Alors ce sont des valeurs qui sont différentes, il y en a avec lesquelles on peut se trouver en adéquation ou en résonance, si vous voulez, ou bien pas. On peut trouver que c'est sympa de protéger l'environnement, mais moins sympa de promouvoir un haut degré de développement du commerce international. Que c'est bien d'intégrer dans l'économie mondiale les pays en développement, mais qu'il ne faudrait peut-être pas suivre ce modèle-là, peu importe. Mais il me semble que les valeurs, en tout cas, ne sont pas absentes. Alors, en tout cas, pour le volet public. Alors, évidemment, pour le volet privé, là, j'aurais tendance à vous rejoindre sans trop de difficultés. Là, les valeurs me semblent assez évanescentes. Et je crois qu'en effet, l'idée d'une cohésion, là, elle passe très, très largement au second plan. Et finalement... peut-être pour faire un tout petit lien avec ce dont vous n'avez pas parlé maintenant, mais que vous évoquez dans le texte, qui est ce rôle des juges, ben c'est vrai qu'on le retrouve un petit peu du côté des juges de l'OMC, justement, qui peut-être essayent de réinsuffler ou d'atteindre un certain équilibre dans l'application de ces règles en intégrant un certain nombre d'éléments qui sont pas, certainement pas propres ou exclusifs au commerce ou à des considérations commerciales strictement. Peut-être pour ne pas faire trop long et en venir d'une certaine manière au point de départ et à cette idée de la persistance et dans quelle mesure du modèle westphalien classique et en relation avec cela. Avec, comment pourrais-je dire, la pertinence ou l'adéquation d'un modèle de juge transnational ou de contentieux transnational, ben évidemment, comprenez que les deux questions sont assez liées, effectivement. L'affirmation d'un contentieux spécifique transnational est, a priori, fondée sur l'idée du dépassement de ce modèle classique. Si, par contre, on peut voir ou on affirme des traces de sa persistance, de son enracinement à un certain nombre d'égards, l'idée du transnational deviendra sans doute plus sujette à caution et à débat. Je crois que, malgré tout, une des questions qui doit rester à cet égard-là, c'est la question de l'utilité ou de la valeur ajoutée du qualificatif et du prisme d'approche, en quelque sorte. Moi, ça m'a fait penser, ça m'a renvoyé cet après-midi à une expérience personnelle. Je fais partie du comité de rédaction, de lecture de certaines revues scientifiques, et pour l'une d'entre elles, on m'a soumis, il y a quelques années, un projet d'article sur l'idée droit, c'était quoi ? C'était le droit pénal transnational. En disant qu'il y a le droit pénal national, il y a le droit pénal international, mais il faut trouver une nouvelle catégorie qui devrait être le droit pénal transnational parce que ça correspondrait à certaines évolutions et en particulier au développement en criminologie de la notion de crime transnational qui est quelque chose d'un petit peu différent. Alors j'ai lu l'article qui était assez bien fait sur le plan formel et du raisonnement, etc. Mais ma conclusion... En fin de compte, ça a été
de le renvoyer au responsable de la publication en disant, écoutez, je trouve pas ça inintéressant, mais je suis pas sûr de voir vraiment ce que ça apporte. Est-ce que ce n'est pas simplement la traduction d'un penchant classique des juristes qui est le fait qu'on adore les tiroirs, on adore les catégories, et plus il y a de tiroirs et de catégories, plus on est content, en général. Vous n'avez qu'à regarder, effectivement, la tendance générale à la surspécialisation dans le programme des études. Ben, vous allez trouver, si vous regardez un programme de cours dans une faculté de droit, il y a ne fût-ce que 20 ans, et si vous regardez un programme de cours maintenant, vous verrez qu'il y a une évolution sensible à cet égard-là, et que, effectivement, quand on a des discussions en conseil de faculté pour savoir si on va engager quelqu'un pour donner un cours de droit des sûretés immobilières, on va écarter un candidat qui a une spécialité en matière de droit des sûretés immobilières en disant, vraiment, il ne connaît rien, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Comment peut-on prétendre que cette personne va pouvoir assumer correctement cette charge-là? Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on aime beaucoup les tiroirs, on aime beaucoup les multiplier, et on aime beaucoup poser des étiquettes qui sont différentes sur les différents tiroirs. Et je posais simplement la question à ce moment-là, de savoir si ce n'était pas un petit peu l'expression de ce travers-là que reflétait l'article en question. Alors, je peux vous rassurer tout de suite, les responsables de publication ont trouvé que l'article était très bien, ils l'ont publié sans tenir absolument aucun compte de mes remarques quelconques sur ce plan-là, mais simplement ça m'a fait forcément penser à ce débat dans ce contexte-ci, et sans doute dans le contexte plus général de ce séminaire, qui est peut-être un point sur lequel il sera utile de revenir à différents moments, éventuellement, de savoir dans quelle mesure, effectivement, il y a une valeur ajoutée qui est tout à fait possible ou vraisemblable, mais qui, à mon avis, doit être débusquée ou identifiée autant que possible. Et c'est sans doute un très beau défi pour vous, et encore plus pour vous, qui, si j'ai bien compris, allait devoir produire des travaux brillants et intelligents sur ce redoutable sujet. Donc, bon courage.
Merci Pierre, je rebondis immédiatement sur la fin de ton intervention. C'est effectivement la question. Qu'est-ce qu'apporte... de plus, le fait de rajouter à national et international le mot transnational. Alors, moi, je suis moins partant sur l'idée.